Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin, les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits. Ils attendaient que le poêle fût allumé dans l'école pour s'y précipiter. Derrière le portail, nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne. Ils arrivaient tous, éblouis encore d'avoir traversé le paysage de givre, d'avoir vu les étangs glacés, les taillis ou les lièvres d'étale. Il y avait dans leurs blouses un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poêle rouge. Et ce matin-là, l'un d'eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu'il avait découvert en route. Il essayait, je me souviens, d'accrocher par ses griffes au poteau du préau la longue bête raidie. Puis, la pesante classe d'hiver commença. Un coup brusque au carreau nous fit lever la tête. Dressés contre la porte, nous aperçûmes le grand Mône, secouant avant d'entrer le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui. Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l'ouvrir. Il y eut à l'entrée comme une vague de conciliabules que nous n'entendîmes pas, et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l'école. Cette bouffée d'air frais venue de la cour déserte, les brindilles de paille qu'on voyait accrochées aux habits du grand Mône et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité. Monsieur Sorel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée et Mône marchait vers lui d'un air agressif. Je me rappelle combien je le trouvais beau à cet instant, le grand compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute. Il s'avança jusqu'à la chaire et dit d'un ton très assuré de quelqu'un qui rapporte un renseignement: « Je suis rentré, monsieur. »« Je le vois bien, » répondit monsieur Sorel, en le considérant avec curiosité. « Allez vous asseoir à votre place. » Le gars se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d'un air moqueur comme font les grands élèves indisciplinés lorsqu'ils sont punis. Et saisissant d'une main le bout de la table, il se laissa glisser sur son banc. « Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, » dit le maître. Toutes les têtes étaient alors tournées vers Mône, pendant que vos camarades finiront la dictée. Et la classe reprit, comme auparavant. De temps à autre, le grand Mône se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres d'où l'on apercevait le jardin blanc, cotonneux et immobile, et les champs déserts où parfois descendait un corbeau. Dans la classe, la chaleur était lourde auprès du poêle rougi. Mon camarade, la tête dans les mains, s'accouda pour lire. À deux reprises, je vis ses paupières se fermer et je crus qu'il allait s'endormir. « Je voudrais aller me coucher, monsieur, » dit-il enfin, en levant le bras à demi. « Voici trois nuits que je ne dors pas. »« Allez, » dit monsieur Sorel, désireux surtout d'éviter un incident. Toutes les têtes levées, toutes les plumes en l'air, à regret, nous le regardâmes partir avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux. Que la matinée fut lente à traverser. Aux approches de midi, nous entendîmes là-haut dans la mansarde le voyageur s'apprêter pour descendre. Au déjeuner, je le retrouvai assis devant le feu, près des grands-parents interdits, pendant qu'aux douze coups de l'horloge, les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger. De ce déjeuner, je ne me rappelle qu'un grand silence et une grande gêne. Tout était glacé. La toile cirée sans nappe, le vin froid dans les verres, le carreau rougi sur lequel nous posions nos pieds. On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander aux fugitifs, et il profita de cette trêve pour ne pas dire un mot. Enfin, le dessert terminé, nous pûmes tous deux bondir dans la cour. Cour d'école, après-midi, où les sabots avaient enlevé la neige, cour noircie, où le dégel faisait dégoûter les toits du préau, cour pleine de jeux et de cris perçants. Maune et moi nous longeâmes en courant les bâtiments. Déjà deux ou trois de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie, faisant gicler la boue sur leurs sabots, les mains aux poches, le cache-nez déroulé. Mais mon compagnon se précipita dans la grande classe où je le suivis et referma la porte vitrée juste à temps pour supporter l'assaut de ceux qui nous poursuivaient. Il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées, de sabots claquant sur le seuil, une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les deux battants de la porte, mais déjà Maune, au risque de se blesser à son anneau brisé, avait tourné la petite clé qui fermait la serrure. Nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite. En été, ceux qu'on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu'on eût pu les fermer toutes. Mais nous étions en décembre et tout était clos. Un instant, on fit au dehors des pesées sur la porte. On nous cria des injures, puis, un à un, ils tournèrent le dos et s'en allèrent, la tête basse, en rajustant leur cache-nez. Dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette, il n'y avait que deux balayeurs qui déplaçaient les tables. Je m'approchai du poêle pour m'y chauffer paresseusement en attendant la rentrée, tandis qu'Augustin Maune cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres. Il découvrit bientôt un petit atlas qu'il se mit à étudier avec passion, debout sur l'estrade, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains. Je me disposais à aller près de lui. Je lui aurais mis la main sur l'épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu'il avait fait. Lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s'ouvrit, toute battante sous une violente poussée, et Jasmin Delouche, suivi d'un gars du bourg et de trois autres de la campagne, surgit avec un cri de triomphe. Une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée. Ils avaient dû la pousser et sauter par là. Jasmin Delouche, encore qu'assez petit, était l'un des plus âgés du cours supérieur. Il était fort jaloux du grand Maune, bien qu'il se donnât comme son ami. Avant l'arrivée de notre pensionnaire, c'était lui, Jasmin, le coq de la classe. Il avait une figure pâle, assez fade, et les cheveux pommadés. Fils unique de la veuve Delouche, aubergiste, il faisait l'homme. Il répétait avec vanité ce qu'il entendait dire aux joueurs de billard et aux buveurs de vermouth. À son entrée, Maune leva la tête et les sourcils froncés, cria au gars qui se précipitait sur le poêle en se bousculant : « Mais on ne peut donc pas être tranquille une minute, ici !» Si tu n'es pas content, il fallait rester où t'étais, répondit sans lever la tête Jasmin Delouche, qui se sentait appuyé par ses compagnons. Je pense qu'Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend sans qu'on puisse la contenir. « Toi, dit-il en se redressant et en fermant son livre, un peu pâle, tu vas commencer par sortir d'ici. » L'autre ricana. « Ah ! Cria-t-il, parce que tu es resté 3 jours échappé, tu crois que tu vas être le maître maintenant ?» Et associant les autres à sa querelle, « C'est pas toi qui nous feras sortir, tu sais ?» Mais déjà Moon était sur lui. Il y eut d'abord une bousculade, les manches des blouses craquèrent et se décousirent. Seul Martin, un des gars de la campagne, entré avec Jasmin, s'interposa. « Tu vas le laisser ? » dit-il, les narines gonflées, secouant la tête comme un bélier. D'une poussée violente, Moon le jeta, titubant, les bras ouverts au milieu de la classe. Puis, saisissant d'une main Delouche par le cou et de l'autre ouvrant la porte, il tenta de tout jeter dehors. Jasmin s'agrippait aux tables et traînait les pieds sur les dalles, faisant crisser ses souliers ferrés, tandis que Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas compter, la tête en avant, furieux. Moon lâcha Delouche pour se colter avec cet imbécile, et il allait peut-être se trouver en mauvaise posture lorsque la porte des appartements s'ouvrit à demi. Monsieur Sorel parut, la tête tournée vers la cuisine, terminant avant d'entrer une conversation avec quelqu'un. Aussitôt, la bataille s'arrêta. Les uns se rangèrent autour du poêle, la tête basse, ayant évité jusqu'au bout de prendre parti. Moon s'assit à sa place, le haut de ses manches décousues et défroncées. Quant à Jasmin, tout congestionné, on l'entendit crier durant les quelques secondes qui précédèrent le coup de règle du début de classe. « Il ne peut plus rien supporter maintenant. Il fait le malin. Il s'imagine peut-être qu'on ne sait pas où il a été. » « Imbécile !» Je ne le sais pas moi-même, répondit Moon, dans le silence déjà grand. Puis, haussant les épaules, la tête dans les mains, il se mit à apprendre ses leçons.
Denis Flageol.
Retour au roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, après cette petite pause musicale. Notre chambre était, comme je l'ai dit, une grande mansarde. À moitié mansarde, à moitié chambre. Il y avait des fenêtres aux autres logis d'adjoints. On ne sait pourquoi celui-ci était éclairé par une lucarne. Il était impossible de fermer complètement la porte qui frottait sur le plancher. Lorsque nous y montions le soir, abritant de la main notre bougie que menaçaient tous les courants d'air de la grande demeure, chaque fois nous essayions de fermer cette porte, chaque fois nous étions obligés d'y renoncer. Et toute la nuit nous sentions autour de nous, pénétrant jusque dans notre chambre, le silence des trois greniers. C'est là que nous nous retrouvâmes, Augustin et moi, le soir de ce même jour d'hiver. Tandis qu'en un tour de main, j'avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit, mon compagnon, sans rien dire, commençait lentement à se déshabiller. Du lit de fer au rideau de cretonne décoré de pampre où j'étais monté déjà, je le regardais faire. Tantôt il s'asseyait sur son lit bas et sans rideau. Tantôt il se levait et marchait de long en large tout en se dévêtant. La bougie qu'il avait posée sur une petite table d'osier tressée par des bohémiens jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque. Tout au contraire de moi, il pliait et rangeait d'un air distrait et amer, mais avec soin, ses habits d'écolier. Je le revois, plaquant sur une chaise sa lourde ceinture, pliant sur le dossier sa blouse noire extraordinairement fripée et salie, retirant une espèce de paletot gros bleu qu'il avait sous sa blouse, et se penchant en me tournant le dos pour l'étaler sur le pied de son lit. Mais lorsqu'il se redressa et se retourna vers moi, je vis qu'il portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre qui était d'uniforme sous le paletot, un étrange gilet de soie, très ouvert, que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre. C'était un vêtement d'une fantaisie charmante, comme devaient en porter les jeunes gens qui dansaient avec nos grands-mères dans les bals de 1830. Je me rappelle en cet instant le grand écolier paysan nu-tête, car il avait soigneusement posé sa casquette sur ses autres habits, visage si jeune, si vaillant et si durci déjà. Il avait repris sa marche à travers la chambre lorsqu'il se mit à déboutonner cette pièce mystérieuse d'un costume qui n'était pas le sien. Et il était étrange de le voir, en bras de chemise, avec son pantalon trop court, ses souliers boueux, mettant la main sur ce gilet de marquis. Dès qu'il l'eut touché, sortant brusquement de sa rêverie, il tourna la tête vers moi et me regarda d'un œil inquiet. J'avais un peu envie de rire. Il sourit en même temps que moi et son visage s'éclaira. « Oh ! « Dis-moi ce que c'est, fis-je, enhardi, à voix basse. Où l'as-tu pris ?» Mais son sourire s'éteignit aussitôt. Il passa deux fois sur ses cheveux ras sa main lourde, et tout soudain, comme quelqu'un qui ne peut plus résister à son désir, il réendossa sur le fin jabot sa vareuse qu'il boutonna solidement et sa blouse fripée. Puis il hésita un instant en me regardant de côté. Finalement, il s'assit sur le bord de son lit, quitta ses souliers qui tombèrent bruyamment sur le plancher, et tout habillé comme un soldat au cantonnement d'alerte, il s'étendit sur son lit et souffla la bougie. Vers le milieu de la nuit, je m'éveillai soudain. Mone était au milieu de la chambre, debout, sa casquette sur la tête, et il cherchait au porte-manteau quelque chose, une pèlerine qu'il se mit sur le dos. La chambre était très obscure. Pas même la clarté que donne parfois le reflet de la neige. Un vent noir et glacé soufflait dans le jardin mort et sur le toit. Je me dressai un peu et je lui criai tout bas « Moon, tu repars !» Il ne répondit pas. Alors tout à fait affolé, je dis « Eh bien, je pars avec toi. Il faut que tu m'emmènes. » Et je sautai à bas du lit. Il s'approcha, me saisit par le bras, me forçant à m'asseoir sur le rebord du lit et me dit « Je ne puis pas t'emmener. Si je connaissais bien mon chemin, tu m'accompagnerais, mais il faut d'abord que je le retrouve sur le plan. » Et je n'y parviens pas. Alors, tu ne peux pas repartir non plus. C'est vrai. C'est bien inutile, fit-il avec découragement. Allez, recouche-toi. Je te promets de ne pas repartir sans toi. Et il reprit sa promenade de long en large dans la chambre. Je n'osais plus rien lui dire. Il marchait, s'arrêtait, repartait. Comme quelqu'un qui, dans sa tête, recherche ou repasse des souvenirs, les confronte, les compare, calcule et soudain pense avoir trouvé, puis, de nouveau, lâche le fil et recommence à chercher. Ce ne fut pas la seule nuit où, réveillé par le bruit de ses pas, je le trouvais ainsi vers 1 heure du matin, déambulant à travers la chambre et les greniers, comme ces marins qui n'ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leur propriété bretonne, se lèvent et s'habillent à l'heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne. À 2 ou 3 reprises durant le mois de janvier et la première quinzaine de février, je fus ainsi tiré de mon sommeil. Le grand Moon était là, dressé, tout équipé, sa pèlerine sur le dos, prêt à partir, et chaque fois, au bord de ce pays mystérieux où, une fois déjà, il s'était évadé, il s'arrêtait, hésitait. Au moment de lever le loquet de la porte de l'escalier et de filer par la porte de la cuisine qu'il eut facilement ouverte sans que personne l'entendît, il reculait une fois encore. Puis, durant de longues heures, du milieu de la nuit, fiévreusement, il arpentait en réfléchissant les greniers abandonnés. Enfin, une nuit de février vers le 15, ce fut lui-même qui m'éveilla en me posant doucement la main sur l'épaule. La journée avait été fort agitée. Moon, qui délaissait complètement tous les jeux de ses anciens camarades, était resté durant la dernière récréation du soir, assis sur son banc, tout occupé à établir un mystérieux petit plan en suivant du doigt et en calculant longuement sur l'atlas du Cher. Un va-et-vient incessant se produisait entre la cour et la salle de classe. Les sabots claquaient, on se pourchassait de table en table, franchissant le banc et l'estrade d'un saut. On savait qu'il ne faisait pas bon s'approcher de Moon lorsqu'il travaillait ainsi. Cependant, comme la récréation se prolongeait, 2 ou 3 gamins du bourg, par manière de jeu, s'approchèrent à pas de loup et regardèrent par-dessus son épaule. L'un d'eux s'enhardit jusqu'à pousser les autres sur Moon. Il ferma brusquement son atlas, cacha sa feuille et empoigna le dernier des 3 gars, tandis que les 2 autres avaient pu s'échapper. C'était ce hargneux Giroda qui prit un ton pleurard, essaya de donner des coups de pied et en fin de compte fut mis dehors par le grand Maud à qui il cria rageusement « Grand lâche ! Moi ça ne m'étonne pas qu'ils sont tous contre toi, qu'ils veulent te faire la guerre !» À une foule d'injures auxquelles nous répondîmes sans avoir bien compris ce qu'il avait voulu dire. C'est moi qui criais le plus fort car j'avais pris le parti du grand Maud. Il y avait maintenant tout un pacte entre nous. La promesse qu'il m'avait faite de m'emmener avec lui sans me dire, comme tout le monde, que je ne pourrais pas marcher, m'avait lié à lui pour toujours. Je ne cessais de penser à son mystérieux voyage. Je m'étais persuadé qu'il avait dû rencontrer une jeune fille. Elle était, sans doute, infiniment plus belle que toutes celles du pays, plus belle que Jeanne, qu'on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure, et que Madeleine, la fille de la châtelaine, qui était admirable mais folle et toujours enfermée, et que Jenny, la fille du boulanger, toute rose et toute blonde. C'est à une jeune fille, certainement, qu'il pensait la nuit, comme un héros de roman. Et j'avais décidé de lui en parler bravement la première fois qu'il m'éveillerait. Le soir de cette nouvelle bataille, après 4 heures, nous étions tous les deux occupés à rentrer des outils du jardin, des pics et des pelles qui avaient servi à creuser des trous, lorsque nous entendîmes des cris sur la route. C'était une bande de jeunes gens et de gamins en colonne par quatre, au pas de gymnastique et volement comme une compagnie parfaitement organisée, conduite par Delouche, Daniel, Giroda et un autre, que nous ne connûmes point. Ils nous avaient aperçus et ils nous huaient de la belle façon. Ainsi, tout le bourg était contre nous, et l'on préparait je ne sais quel jeu guerrier dont nous étions exclus. Mône, sans mot dire, remisa sous le hangar la bêche et la pioche qu'il avait sur l'épaule. Mais à minuit, je sentais sa main sur mon bras, et je m'éveillais en sursaut. « Lève-toi, dit-il, nous partons. Connais-tu maintenant le chemin jusqu'au bout ? J'en connais une bonne partie. » « Il faudra bien que nous trouvions le reste, » répondit-il, les dents serrées. « Écoute, Mône, » fis-je, en me mettant sur mon séant, « écoute-moi. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de chercher tous les deux en plein jour, en nous servant de ton plan, la partie du chemin qui nous manque. Mais cette portion-là est très loin d'ici. Eh bien, nous irons en voiture cet été, dès que les journées seront longues. » Il y eut un silence prolongé qui voulait dire qu'il acceptait. « Puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes, Mône, » ajoutai-je enfin, « dis-moi qui elle est, parle-moi d'elle. » Il s'assit sur le pied de mon lit. Je voyais dans l'ombre sa tête penchée, ses bras croisés et ses genoux. Puis il aspira l'air fortement, comme quelqu'un qui a eu gros cœur longtemps et qui va enfin confier son secret. Cette lecture du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, est terminée pour ce soir. Nous y reviendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.